Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 17. Les exilés attendaient avec curiosité le retour de Marianne, sachant que celle-ci avait été appelée par le commandant du navire. Aussi, à peine avait-elle reparu à la porte, que toutes s'avancèrent au-devant d'elle. Et les questions se succédèrent. « Dis-nous donc ce qu'on te voulait. Pourquoi a-t-on interrompu notre promenade ? Que t'a dit le capitaine ? Serons-nous bientôt arrivés ?»« Je vais répondre à toutes vos questions, » dit Marianne en affectant le plus grand calme. Si le capitaine a cru devoir interrompre notre promenade habituelle sur le pont, c'est que l'équipage sera occupé pendant une grande partie de la journée à exécuter des manœuvres difficiles, pour lesquelles le pont doit demeurer complètement libre. Il y eut une sorte de rumeur d'incrédulité dans une partie de l'assistance. Ces manœuvres, une fois terminées, je vous affirme que la consigne sera levée et votre liberté vous sera rendue. Vous me demandez encore si nous arrivons bientôt à la Nouvelle-Orléans ? Oui, bientôt, si nul accident fatal ne vient nous frapper. De quel malheur sommes-nous donc menacés ? Aucun malheur ne nous atteindra, je l'espère. Mais ne savez-vous pas aussi bien que moi qu'une tempête peut nous assaillir, qu'une voie d'eau peut se déclarer qui fasse sombrer le bâtiment, que l'incendie, enfin, peut dévorer le navire ? L'incendie ? S'écrièrent quelques femmes épouvantées. Oui, l'incendie, répéta Marianne en affectant l'air le plus indifférent, le plus calme. Mais l'incendie à bord ne devient une effroyable catastrophe que dans le cas où les passagers, cédant à l'épouvante et cherchant à fuir le danger, entravent les manœuvres et mettent à néant les courageux efforts de l'équipage. « Jadis, ajouta-t-elle, on m'a conté l'histoire de deux navires incendiés. Le premier périt corps et biens. Pas un des passagers qui le montait ne put être sauvé. Une folle terreur s'était emparée d'eux, et voulant se soustraire au terrible fléau, ils se jetèrent en foule dans les embarcations, sans provisions, sans guide, incapables de diriger la manœuvre, et sourds aux cris de leurs malheureux compagnons abandonnés à bord. Ils succombèrent tous, les uns au milieu des flots, les autres au milieu des flammes. « Oui, dit une des portées, un incendie à bord, c'est une catastrophe que rien ne peut combattre. C'est la mort inévitable pour tout l'équipage. » « Non, répondit Marianne, je vous ai parlé de deux navires. Le second fut sauvé par le calme et la résignation des passagers. Ce bâtiment, de même que celui sur lequel nous nous trouvons, portait à la Louisiane un convoi de malheureuses femmes, déportées ainsi que nous. Le feu s'était déclaré à bord, et toutes ont été sauvées cependant. « Sauvées ? » s'écriait-on avec surprise. « Oui, sauvées, parce que parmi ces femmes, il s'en trouvait une dont l'âme s'était purifiée aux sages exhortations de cette digne et vertueuse sœur Geneviève, que vous avez connue, que vous avez aimée, et respectée à la Salpêtrière. « Ayez confiance, disait la repentie à ses compagnes, et tandis que l'équipage prépare notre salut, prions, afin que Dieu nous sauve, ou pour que notre âme soit sauvée si nous devons mourir. » Et parce qu'elles avaient été courageuses et résignées, elles ont échappé à la mort. « Eh bien, dites maintenant, si pareil danger nous menaçait, que feriez-vous ? Nous agirions comme ont agi nos devancières, répondit une des déportées. « Vous auriez ce courage, ce sang-froid ? » demanda Marianne. « Oui, oui !» s'écrièrent-elles toutes ensemble. Marianne exhala un soupir de soulagement. « Il faut gagner du temps, » lui avait dit le capitaine, et déjà un temps assez long s'était écoulé pendant le récit qu'elle venait de faire. Marianne entrevoyait l'espérance de pouvoir maîtriser, quand le moment en serait venu, le redoutable affolement qui devait bientôt s'emparer de ses compagnes. Mais, à ce moment même, un grand bruit se fit entendre sur le pont. C'était un mélange de cris, de jurons, de pas précipités, de lourds cordages traînés sur le plancher du bord, et cherchant à dominer ce tumulte, la voix des officiers qui donnaient des ordres que les matelots accueillaient par des clameurs désespérées. Après un premier moment d'épouvante qui les avait rendues muettes, toutes les prisonnières se précipitèrent en même temps vers l'escalier, se heurtant, se bousculant les unes les autres pour arriver au plus vite devant la porte qui demeurait fermée. Marianne s'était élancée la première et tenait tête à cette avalanche. Debout sur les premières marches, l'œil en feu et les mains tendues. Arrêtez! S'écria-t-elle. Arrêtez! Souvenez-vous de l'engagement que vous preniez, il n'y a qu'un instant. Si quelque grand danger nous menaçait, avez-vous dit, nous agirions comme ont agi nos devancières. Eh bien oui, un danger plane sur nos têtes, mais nous pouvons le conjurer par le calme et la résignation, et à mon tour, je vous crie. À genoux, mes sœurs, à genoux. Et tandis que l'équipage prépare notre salut, prions, afin que le ciel nous secoure, ou pour que notre âme soit sauvée si nous devons mourir. Marianne, en prononçant ces mots, était transfigurée. L'ancienne fille perdue, la maîtresse de Jacques Frochard, semblait une sainte inspirée. Toutes ses compagnes s'étaient subitement arrêtées. Elles la regardaient, surprises et à demi dominées. Quelques-unes même fléchissaient le genou. Mais à peine ces paroles avaient-elles été prononcées par Marianne, que la courageuse femme tressaillit violemment. Sous ses pieds, elle avait senti comme un crépitement de planches attaquées par le feu. Elle vit un mince filet de fumée qui arrivait par l'interstice de deux feuilles du plancher. C'en était fait de son intervention. Encore quelques instants, et la fumée, élargissant son issue, allait envahir la salle tout entière. L'épouvante se propageant alors entraverait le sauvetage. Que faire? Le capitaine avait dit « Il faut gagner du temps ». Et sans hésiter, rappelant à force d'énergie le calme sur son visage, elle appuya résolument ses deux pieds sur la fente par laquelle s'échappait la fumée. Elle s'efforça de parler encore, mais le plancher avait sous ses pieds des ardeurs de seconde en seconde plus violentes. Elle en était arrivée à sentir la brûlure du feu à travers les semelles de ses souliers. « Il faut gagner du temps », répéta-t-elle tout bas, et elle ne broncha pas. Impassible, elle continuait à rassurer les plus agités, alors qu'en elle-même, elle désespérait du salut et sentait se calciner sa chair. Plus courageuse et plus énergique à mesure que le péril augmentait, elle se raidit contre la souffrance et s'évertuait à prêcher une confiance qu'elle n'avait plus elle-même. Tout à coup, au silence qui régnait sur le pont, succéda de nouveau un bruit assourdissant. Une immense clameur s'élevait pour implorer le secours de la Providence. Les prisonnières répondirent à ce tumulte par des cris exaspérés. Cette fois, il n'y avait pas à essayer de les contenir. Marianne luttait toujours contre la souffrance, mais une seconde colonne de fumée s'était fait jour et se répandait dans la salle. Nulle description ne peut rendre ce qui se passa alors parmi ces femmes terrifiées, enfermées dans ce réduit qui menaçait de s'embraser d'un moment à l'autre, alors que la retraite leur était coupée. Toutes s'acharnèrent à essayer d'enfoncer la porte, se meurtrissant les chairs, se broyant les os pour s'ouvrir un passage. Subitement, au moment où l'on s'y attendait le moins, cette porte s'ouvrit. Lorsque le lieutenant Douvel eut reçu la promesse que la jeune femme lui avait faite de contenir l'affolement de ses compagnes, il s'était immédiatement dirigé dans la cale, à l'endroit où le feu s'était déclaré, et accomplissait lentement, mais implacablement, son œuvre de destruction. Lorsqu'il arriva à l'endroit où les équipes, commandées pour le service des pompes, lutter vigoureusement pour arrêter la marche du feu, l'incendie n'avait pu être circonscrit, ainsi qu'on l'avait espéré d'abord. Le brick était vieux, et le bois, à demi vermoulu, offrait un aliment facile au feu qui attaquait la coque depuis l'entrepont jusqu'à la flottaison. Dans ces conditions, il n'y avait pas grand espoir d'arrêter les progrès de l'incendie. D'autant moins qu'on ne pouvait faire la part du feu, ainsi que cela se pratique dans les sinistres qui se déclarent sur terre. Il y avait lieu de penser que dans sa marche cachée, l'incendie avait allumé plusieurs foyers et que la coque du navire était attaquée en plusieurs endroits à la fois. Du premier coup d'œil, le lieutenant Douvel avait compris toute l'étendue de ce danger. À tout prix, il fallait, pensait-il, préserver la soute aux poudres. Mais comment empêcher le feu qui dévorait la coque de gagner dans sa marche la partie du navire où se trouvait la soute, dont on redoutait l'explosion? Il fallait prendre les décisions rapides que commandait la situation. Et seul le maître après Dieu sur le navire pouvait donner les ordres qu'il jugeait de nature à préserver la vie des passagers. Une terrible responsabilité incombait donc à ce jeune officier dont le courage dépassait assurément de beaucoup l'expérience. Déjà, on l'a vu, il avait pensé à l'éventualité de l'abandon du bâtiment, dans le cas où il n'y aurait pas eu moyen de le sauver. Il avait commandé dans cette prévision des équipes confiées au commandement de deux officiers. Tout ce monde était déjà à son poste, attendant le moment de mettre les embarcations à la mer. Ce sont les manœuvres nécessitées par l'ordre donné en ce sens qui avaient provoqué le tumulte entendu par les passagères de l'entrepont. Or, pendant que le lieutenant Douvel était au plus fort du danger, appuyé contre la porte de la soute aux poudres, deux hommes se tenaient sous la passerelle qui faisait communiquer la dunette avec le poste du timonier à la barre. « Maître, disait l'un de ces hommes, ton avis est qu'il faudra en arriver là? Jugez donc, major, pour déménager la poudre, il faudrait au moins une bonne demi-heure. Eh bien, je ne crois pas que nous ayons encore ce temps-là devant nous. Alors, il faudra, selon toi, saborder le brick, hélas, et le voir s'engouffrer comme une coquille de noix. C'est un sacrifice indispensable, et qui me fendra le cœur lorsqu'il faudra que je porte la hache dans le flanc de mon pauvre vaisseau que je n'ai pas quitté depuis tantôt 18 ans. » Et le quartier-maître, car c'était lui, s'attendrissait au point d'essuyer du revers de sa main ses paupières humides. Le médecin-major, qui était son interlocuteur, reprit après une seconde donnée à l'émotion qu'il avait gagnée. « Douvel se doute-t-il de la nécessité du sacrifice dont tu viens de me parler? Il est sur le lieu du sinistre, il doit bien se rendre compte du danger. Ne devrais-tu pas le prévenir? Il est le capitaine. Cela est vrai, et je respecte autant que toi les devoirs de la discipline, mais il y va de l'existence d'une 60aine de personnes. Nous devons notre avis au capitaine. » Et comme le quartier-maître hésitait encore, « J'y vais avec toi, viens !» Saisissant le bras du quartier-maître, le médecin-major entraînait celui-ci auprès du lieutenant. Au moment où ils arrivèrent, une épaisse fumée emplissait la partie de la cale. L'incendie avait fait de rapides progrès depuis moins d'un quart d'heure. Cette fumée aveuglante ajoutait encore à l'horreur de la situation. Les matelots, refoulés et à demi asphyxiés, revenaient à la charge avec le courage du désespoir. Les uns, plus hardis, se précipitaient tout le long de la paroi en feu pour étouffer les foyers au moyen de paquets d'étoupe imbibés d'eau. D'autres lançaient sur le brasier du sable qui servait de lest au navire. C'est le moyen le plus efficace dans les incendies au début. Mais celui-ci avait résisté à toutes les attaques, quelque vigoureuses qu'elles fussent. Toutes ces tentatives demeuraient stériles. La fumée devenait absolument opaque et le vent qui s'engouffrait par les écoutilles refoulait le nuage asphyxiant. Les hommes de service aux pompes inondaient d'eau la cale où l'on ne se voyait plus. Des gémissements, des exclamations, des cris se faisaient entendre au milieu de ces ténèbres qui devenaient de plus en plus épaisses. Au milieu du tumulte, la voix du lieutenant Douvel s'élevait, vibrante, excitant les hommes au travail. Tout à coup, ces mots furent prononcés, partant de la cale. « Nous sommes perdus, sauf qui peut !» Alors, on vit sortir du nuage de fumée des matelots affolés, le visage noirci, les mains ensanglantées par les brûlures. Tous cherchaient une issue pour échapper à l'asphyxie et à la mort. Et de toutes les poitrines s'échappait le cri terrible. « Sauf qui peut !» À la guerre, sur le champ de bataille labouré par la mitraille, ce cri de terreur est le signal de la débâcle effrénée qui ne respecte ni les vivants, ni les blessés, ni les morts qui jonchent le sol. C'est le dernier mot de la panique qui change une armée naguère enthousiaste et solide en un troupeau de fuyards éperdus, renversant tout sur son passage comme une trombe de fous furieux. Pendant un incendie à bord, le cri sinistre est 100 fois plus terrible, plus épouvantable. Sur terre, la fuite s'opère de toutes parts et dans tous les sens. Sur un navire, au contraire, dans un espace si restreint, les désespérés s'agitent, se croisent, se heurtent et tournent sur eux-mêmes, n'ayant pour s'enfuir et échapper à la mort que de frêles embarcations que l'on se dispute au risque de les faire chavirer. C'est la lutte pour l'existence, lutte terrible avec toutes les horreurs de la révolte. Sauf qui peut, c'est le signal donné à chacun pour qu'il n'ait plus à s'occuper que de lui-même, sans pitié pour les appels désespérés, pour les prières des femmes éperdues, se traînant sur les genoux, bousculé, renversé, piétiné par une cohue hurlante et prise de la folie de vivre. Le lieutenant Douvel a compris ce nouveau danger qui menace. En une seconde, sa résolution est prise. Dégainant le poignard qui pend à son ceinturon, il s'écrie d'une voix pleine d'autorité et de menace. « Le premier qui fera un pas pour s'enfuir, alors que le devoir nous commande de faire tête à l'ennemi qui nous envahit, le feu, celui-là sera un lâche, et je le tuerai comme un chien !» La lame haute, il s'élance vers les matelots en ajoutant « Notre devoir à tous est de mourir au poste du combat, et je vais vous donner l'exemple !» Ces mots ont retenti dans le cœur de ces hommes égarés. Ils s'arrêtent. À ce moment, le quartier-maître arrive avec le médecin-major, tous deux la hache au poing. « Arrière !» hurle le vieux marin. « Il n'y a plus même le temps de fuir !» Puis s'adressant à Douvel, « Mon commandant » s'écria-t-il avec force, Commandez, aux haches. Il faut saborder le brick afin de noyer les poudres. Alors seulement il y aura chance de salut en mettant les embarcations à la mer. Si vous tardez une minute de plus, nous allons sauter tous. Commandez aux haches, je vous en prie. Je vous en conjure à genoux.
Soit, fit M. Douvel. Mais avant de saborder le brick, il faut tenter un dernier effort pour vider la soute aux poudres.
Mais, dit le lieutenant-major, n'est-ce pas terriblement périlleux, Douvel ?
Celui-ci avait retrouvé tout son calme. Le devoir du capitaine, dit-il, est de tout essayer pour sauver son navire, de ne le sacrifier qu'au dernier moment, et de ne l'abandonner enfin que le dernier de tous. Et s'adressant aux matelots rangés autour de lui,
« Quatre hommes de bonne volonté, dit-il, quatre hommes d'énergie et de sang-froid, pour emporter un à un les barils de poudre et les jeter par-dessus bord. »
Quatre marins se présentèrent aussitôt, qui se mirent à exécuter l'ordre qu'ils venaient de recevoir, comme s'il se fût agi d'une simple manœuvre habituelle. Il semblait qu'ils eussent honte de la peur qui les avait un instant dominés et qu'ils voulussent faire oublier ce moment de défaillance. Rien n'était plus périlleux, en effet, que ce transport des barils de poudre s'accomplissant à quelques mètres seulement du foyer de l'incendie qui gagnait toujours. Debout, la hache à la main, le quartier-maître comptait les barils au fur et à mesure qu'ils passaient devant lui.
« Encore trois, fit-il, trois seulement !»
Mais à cet instant, un jet de flamme jaillit au milieu de la fumée.
« Tonnerre du diable !» hurla le vieux marin. « Nous n'aurons plus le temps !»
Et apostrophant Douvel.
« Commandant » hurla-t-il. « Pour l'amour de Dieu et de la bienheureuse Sainte-Anne d'Auray, commandez aux haches !»
Le médecin-major, très pâle, très ému, brandissant la hache qu'il tenait, criait à son tour.
« Aux haches ! Aux haches ! Capitaine !»
Alors le lieutenant Douvel emboucha son porte-voix. Puis se hissant jusqu'à moitié de l'escalier, il commanda.
« À moi les hommes de bâbord !»
Aussitôt les matelots accoururent.
« Courez à la salle d'armes !» commanda le lieutenant. « Et prenez des haches d'abordage, et rendez-vous auprès de moi !»
L'ordre fut exécuté avec rapidité, chacun comprenant qu'une seconde perdue en pareil cas pouvait provoquer la plus épouvantable catastrophe. Les six hommes, armés de haches d'abordage, firent irruption dans la cale enflammée. Le quartier-maître et le médecin-major s'étaient placés à leur tête comme s'il se fût agi de s'élancer à l'abordage d'un navire ennemi. Mais Charles Douvel arrêta cet élan par ces mots adressés au quartier-maître.
« Tenez-vous prêts, mais je défends qu'un seul coup de hache soit donné avant que je l'aie moi-même ordonné. »
Des trois barils de poudre qui restaient, deux encore avaient pu être transportés sur le pont et lancés par-dessus bord. Pour enlever le dernier, il fallait à peine quelques minutes. Mais ce court laps de temps allait faire défaut. Le feu s'acharnait sur les bois séchés, comme un ennemi vaincu. La flamme gagnait, léchant les parois de la cale. Le brasier s'élargissait à vue d'œil, et les tourbillons de fumée s'engageaient maintenant dans l'escalier qui conduisait au pont. Les travailleurs, refoulés, battaient en retraite, en poussant des cris de désespoir. Le feu, partout le feu. L'escalier de fer opposait seul une résistance à la flamme qui, repoussée par l'air de dehors, avait pris la direction de la soute aux poudres. C'en était fait. L'explosion devenait imminente. Tous les matelots fuyaient, épouvantés, escaladant l'escalier. Le médecin-major avait saisi le bras de Charles Douvel et essayait de l'entraîner hors de la fournaise.
« Vous ne pouvez pas mourir ici » criait-il, « lorsqu'il y a là-haut des femmes à sauver. »
Ces mots lui rappelaient que Marianne aussi accomplissait en ce moment un acte de dévouement. La pensée que cette courageuse créature allait périr avec toutes les autres fut le dernier coup porté à ses hésitations. Elle se laissa entraîner par le major. Au moment où il arrivait à l'écoutille, le quartier-maître, se signant, prononça une courte prière. Puis, passant au travers des flammes qui en léchaient déjà l'entrée, il s'élança la hache haute dans la soute aux poudres dont il referma la porte de fer derrière lui. Lorsque le lieutenant Douvel arriva sur le pont, des cris de terreur s'élevaient de toutes parts. Tout le monde hurlait ces mots.
« Au feu ! Au feu !»
Le matelot, placé en sentinelle à la porte de la salle réservée aux prisonnières, avait perdu la tête. Ouvrant brusquement cette porte, lui aussi avait crié.
« Au feu ! Le feu est à bord !»
Rien ne saurait peindre l'épouvante qui s'empara de toutes ces malheureuses. Toutes s'élancèrent, se pressant, s'écrasant, pour arriver plus vite sur le pont, croyant que là était le salut. Une immense clameur sortit du milieu de ce troupeau d'affolés qui couraient au bordage, se cramponnant aux bras des matelots qui gardaient les embarcations la hache au poing et attendant l'ordre de mettre les canots de sauvetage à flot. Repoussées, ces malheureuses femmes revenaient à la charge, se tordant les bras de désespoir, priant, implorant, criant avec des accents déchirants. « Sauvez-nous ! Sauvez-nous !» Puis, éperdue, elle s'élançait pour sauter dans les embarcations, se hissant sur les bordages, hurlant, vociférant, le visage en feu, les yeux émergeant des orbites. Il fallut employer la violence pour les repousser et les empêcher, en les envahissant, de faire sombrer les canaux. L'aspirant donna l'ordre à ses hommes de charger ses furieuses. Une lutte allait s'engager, lorsqu'une femme vint se placer entre les marins et les déportés qu'ils avaient refoulés et qu'ils ne maintenaient à distance qu'en les menaçant de la hache. C'était Marianne.